France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin. Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour un soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France en direct du 78e Festival de Cannes dans le studio de Radio France implanté au marché du film. Oui, Cannes s'est ouvert mardi soir avec ses tapis rouges. Il y en a plusieurs en effet, ses flashs, ses robes spectaculaires, même si la réglementation revoit cela un peu à la baisse d'ailleurs. Le clinquant est quand même au rendez-vous. C'est certain, mais au-delà du décorum se joue quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque année, des cinéastes venus du monde entier offrent à travers leurs œuvres bien plus que du divertissement, ce que j'aime appeler, moi en tout cas, une lecture sensible du monde, car le cinéma, lorsqu'il se fait art, devient une forme de parabole contemporaine. Comme Jésus racontait des histoires pour dire l'indicible, eh bien les films donnent chair à nos contradictions, nos quêtes, nos fragilités. Ils interrogent le mal, la justice, l'espérance, la dignité. Ils ébranlent, suscitent la compassion, ouvrent des brèches. À Cannes, les récits projetés ne sont pas neutres. Ils prennent position, posent des diagnostics, tracent parfois des chemins de traversée. Dans la violence d'un exil, par exemple, l'épreuve du deuil, la lutte pour exister, il arrive que perce une lumière et c'est là que foi et culture peuvent sans doute se rencontrer, non pas dans un discours plaqué, mais dans l'écoute, le discernement, la conversation. Et pour les chrétiens, Cannes est aussi un laboratoire spirituel, un lieu où le monde parle, où des visions s'affrontent, où la grâce affleure parfois, là où on ne l'attend pas. Encore faut-il prendre le temps de regarder, d'écouter, de déchiffrer. Alors pour parler de tout cela, eh bien j'ai le grand bonheur de recevoir ce matin en direct du Festival de Cannes et je les remercie de s'être levés tôt pour être là dans le studio de Radio France, l'actrice Aïssa Maïga, bonjour Aïssa.
Bonjour.
Le réalisateur Lionel Bayer.
Bonjour.
Et pour évoquer le jury écuménique, Valérie de Marnac.
Bonjour.
Bonjour à vous trois, bienvenue. Et je commence avec vous, Aïssa Maïga. Vous êtes actrice, réalisatrice, autrice française d'origine sénégalaise et malienne.
C'est exact.
Et vous êtes à Cannes cette année avec un superbe film, Promis le ciel, second long métrage de fiction d'Éric Chéhiri qui avait fait auparavant Sous les figues. Et vous incarnez l'un des rôles principaux parce qu'en fait vous êtes trois actrices magnifiques. Il y a Laetitia Ki et Déborah Lobnané. Alors une rapide confession,
oui.
Je dois vous avouer, après l'avoir vu en ouverture de la belle sélection Un certain regard, j'ai écrit un article, comme je le fais tous les jours, c'était mon premier coup de cœur, c'est ça que j'ai noté, mon premier coup de cœur à Cannes.
Ça fait plaisir.
Et c'est vraiment sincère. Oui. Alors d'ailleurs Aïssa Maïga, vous vous appelez Aïssa, mais on peut aussi vous appeler Maman Pasteur.
Oui, en tout cas le temps du film.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça d'ailleurs souvent dans les communautés africaines que l'on appelle le pasteur ou la pasteur, papa ou maman pasteur.
Oui, absolument.
Alors je vous propose de commencer en écoutant le son d'un extrait justement où l'on vous entend en train de vous préparer à prêcher.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Je déclare une année de saut, une année d'avancement, une année de progrès, une année de lumière sur toi. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le début. Cette année, c'est vous qui allez témoigner à ma place. Amen.
Amen.
Aïssa Maïga, au centre du film, votre personnage, c'est Marie, qui est une femme pasteur ivoirienne, ancienne journaliste, qui a fondé une petite église protestante évangélique dans sa maison. Elle accueille sous son toit Nané, jeune mère sans papier, jolie, étudiante déterminée, et puis Astrio, féminin, déjà assez complexe. Va s'ajouter Kenza, une enfant rescapée d'un naufrage que l'on a retrouvée seule sur une plage, et que l'on entend là dans l'extrait dire un Alléluia et un Amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce très beau personnage que vous jouez, Aïssa, pleine de force, de compassion, mais aussi de doute, de faiblesse?
Oui, Marie, c'est un personnage qui m'a énormément touchée. D'abord, c'est un personnage qui a un voyage intérieur. Mm-hmm. C'est une ancienne journaliste, donc qui a donc décidé de quitter ce rapport au monde pour embrasser pleinement sa foi. Et elle est véritablement en mission. Elle est là pour aider les âmes à s'élever, à survivre dans une situation qui est extrêmement précaire, puisque les migrants subsahariens en Tunisie vivent dans une incertitude de chaque jour. Et en fait, elle m'a touchée parce qu'elle est dans un rapport total à sa foi, en même temps que c'est une femme blessée et très secrète. Donc il y a cette opposition comme ça entre son apparition publique, qui est pleine de force, pleine de lumière, et c'est une coach en même temps qu'un guide spirituel. Elle a un rôle social très fort. Elle est présente pour les fidèles, pour les aider, même d'un point de vue matériel. Et en même temps, c'est une femme qui a une blessure secrète très profonde, et c'était très intéressant en fait cette tension. Ouais. Entre deux extrêmes.
C'est un personnage qui évolue d'ailleurs dans l'histoire. On voit cette faille apparaître à un moment donné. Et cette, on va pas tout dévoiler, mais cet enfant va permettre aussi que son être intérieur évolue aussi et ses doutes apparaître.
Oui. La petite Kenza, moi, elle m'a bouleversée. C'est une enfant qui raconte ce qu'elle a véritablement vécu, en fait.
D'accord.
Ses parents ont tenté la traversée de la Méditerranée, et ça ne s'est pas bien passé, mais ils s'en sont sortis. Donc, ce qu'elle raconte dans le film, c'est pas des mots qu'érige la réalisatrice. D'accord. A mis dans sa bouche. C'est vraiment sa propre histoire.
Elle est magnifique.
Oui, et être face à un petit être qui a une telle expérience de vie déjà, et qui est, elle est en plus extrêmement lumineuse, très pertinente. C'est la reine des punchlines. Et ça m'a vraiment bouleversée. Puis elle m'a adoptée. Au bout de quelques jours, elle m'a appelée maman. Ça m'a beaucoup troublée, alors que sa mère était là tous les jours. Ouais. Mais d'une certaine façon, elle m'a autorisée à entrer dans son monde. Et Kenza apporte énormément au film.
C'est vrai. Ouais. Alors, on est dans une situation compliquée pour tous ces migrants qui sont là, venant donc du sud de l'Afrique. Et il y a une répression croissante là en Tunisie face à cette population. Et l'Église est une sorte à la fois de refuge, mais aussi un lieu de parole, un lieu de guérison, un lieu de spiritualité aussi, très clairement, mais un terrain d'ambiguïté. Pris entre protection, risque, confronté aux dures réalités sans concession du moment et des lieux. En fait, rien n'est facile, et c'est ça qui est bien aussi dans cette histoire.
Oui, c'est ce qu'Erige a réussi à capter. Alors, Erige est elle-même journaliste de formation, documentariste, et là, c'est son deuxième long métrage de fiction. Et en fait, je trouve que ça se ressent de manière très forte dans son travail, parce que l'enquête préparatoire est très longue chez elle. Elle s'est vraiment immergée dans cette communauté pendant 2 ou 3 ans. Et donc, elle a eu une connaissance très fine de son sujet. C'est ce qui lui a permis de, non pas dresser des archétypes, mais plutôt de choisir, en fonction des rencontres qu'elle avait faites, 3 portraits de femmes très distinctes. Elles n'ont pas du tout... Parce que derrière le terme migrant, on a l'impression que c'est un terme un peu générique comme ça. Il n'y a pas de visage, il y a des chiffres, souvent liés à des événements tragiques. Et le film réussit comme ça à sillonner trois paysages intérieurs.
Chaque histoire est différente.
Hein. Oui, exactement. Ouais. Et donc, entre cette étudiante, jouée par Laetitia Kyi, qui a l'impression qu'elle, elle est pas une migrante, puisqu'elle
elle
a des papiers, elle est inscrite, elle ne voit pas pourquoi elle devrait être assimilée à une population à laquelle elle n'appartient pas.
Et d'ailleurs, elle vit très mal un moment où elle se confronte à la réalité.
Voilà, exactement, la réalité la rattrape entre elle et puis Nané, qui est vraiment dans la débrouillardise. Ouais. Et enfin, Marie, il y a vraiment quelque chose qui est déployé, qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de générique, mais au contraire dans l'humain, dans ce qu'il a de plus singulier, de plus intime. Et j'ai oublié votre question, hein, je vais être honnête.
Non, non, mais et pour vous, moi, alors j'ai une autre question. Pour vous, cette foi, cette spiritualité aussi évangélique de ces communautés africaines, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà familier ou c'est il a fallu travailler particulièrement parce que vous le faites vraiment très bien? Moi, je connais un petit peu aussi ces milieux. Et...
Alors moi, je suis vraiment une enfant du métissage à plein de niveaux, notamment religieux. Je suis de famille musulmane, mais il y a eu sur mon chemin une femme catholique qui a énormément compté pour moi quand j'étais enfant, notamment. Donc, j'ai été aussi pétrie de ça, et puis j'ai été élevée également par des athées. Donc, il y a beaucoup de choses qui cohabitent, qui coexistent en moi. En revanche, non, cette religion, enfin, vraiment le culte évangélique, je ne le connaissais pas du tout. Et puis, j'ai été castée 2 semaines avant le début du tournage.
Ah oui. Ouais. Et Eric, j'ai l'habitude de faire vite. Hein.
Oui, très très vite. Et Eric, j'ai l'habitude de travailler avec des acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle. Donc pour elle aussi, il y avait quelque chose d'assez nouveau. Donc j'ai travaillé vraiment en accéléré, en regardant des choses évidemment sur Internet, oui, mais aussi, je dois remercier Pasteur Marie Noël, qui est une femme extrêmement lumineuse. Ouais. Pertinente et qui m'a invitée dans son monde, qui m'a donné des clés de compréhension très très importantes qui m'ont accompagnée pendant tout le tournage. Et il faut dire aussi que les figurants dans l'église sont issus d'une seule et même église en fait.
D'accord,
en réalité,
c'est des fidèles d'une communauté.
Voilà, quand ils m'ont vu arriver, bon, ils savaient que je n'étais pas du tout évangélique, et donc ils m'ont dit pour nous, tu sais, tu as été choisie. Donc tu es notre pasteur et on va te suivre. Donc comment dire, ça m'a mis un
c'est
peu la pression,
ouais.
Mais ils m'ont énormément donné dans les scènes parce qu'ils se mettaient véritablement en état de prière lorsque je prêchais.
C'est ça.
Et ça, enfin,
ils ne jouaient pas, ils étaient tels qu'ils sont au quotidien.
Ouais, exactement. Mmh. Ça m'a beaucoup apporté.
Alors je soulignais que l'Église n'était pas idéalisée. En tout cas, elle est vivante, composite, fragile. Mais c'est aussi là que la parole prend sens, que le soin s'exerce, que les chants consolent et disent à toutes et tous, persévère. Alors je vous propose quelques mesures de cette chanson que l'on entend chanter dans le film par les fidèles, mais ici dans sa version originale, signée par Olivier Chelois. Da-da-da, da-da.
Oh, si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne viens pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, persévère.
Lionel Bayer, vous êtes réalisateur, une dizaine de films à votre actif, dont le tout dernier sorti cette année, La Cache, avec notamment le regretté Michel Blanc, dans ce qui sera donc son dernier film.
C'est horrible quand on présente ma filmographie, maintenant ça se termine toujours par cette espèce de notice nécrologique.
Mais c'est
heureux
c'est
d'avoir fait un film avec lui, et en fait il est vivant dans le film, donc il n'est plus là effectivement, mais il est dans un film.
Ouais, et puis c'est un beau film.
Merci.
Mais cette manière de présenter le cinéma tel que je le faisais en introduction, vous y retrouvez, vous, en tant que réalisateur?
Par rapport au message, par rapport au...
Oui, cette idée qu'un film est une lecture sensible du monde parle de...
Ah oui, oui, enfin, j'espère, donc, j'espère en tout cas que c'est une lecture du monde avec une autre langue que celle des mots, quelque chose qui est en deçà des mots, qui est le rapport qu'on a sensible aux images et au sens qu'elles peuvent produire. Moi, je crois que les réalisatrices et réalisateurs, nous, n'ont pas de message à faire passer, ils racontent des histoires, et si on est malin et qu'on est intelligent, on évoque un message dans la tête des gens qui le regardent, mais c'est le message que vous vous adressez à vous-même. Donc, je crois qu'on permet aux gens de s'adresser eux-mêmes, une réflexion à eux-mêmes. Donc je crois que voilà, le cinéma n'est pas là pour envoyer des messages, mais plutôt pour permettre aux gens de commencer à se poser la question pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils désirent comprendre du monde dans lequel ils vivent?
Vous êtes à Cannes cette année, non pas pour présenter un film, mais en tant que membre d'un jury, celui qui remettra le prix de la citoyenneté samedi prochain, en début d'après-midi. C'est un prix relativement récent qui existe depuis 2018, et c'est le film Bird d'Andrea Arnold qui l'a remporté l'année passée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jury 2025 et de comment vous l'abordez, vous ?
J'étais tout à fait ravi qu'on me propose de participer à ce jury, d'autant plus que la notion de citoyenneté, c'est quelque chose de très ancien et très moderne à la fois, ouais. En tout cas dont il faut s'investir aujourd'hui de manière très très forte, et qui est encore plus œcuménique que l'œcuménisme, puisqu'il dépasse même les questions de religion, mais aussi des gens qui n'en ont pas, et que c'est quelque chose qui peut nous rassembler tous dans ce qu'on appelle la communauté humaine, mais c'est aussi, ça permet de poser des vraies questions en fait de la place de l'État, de la place de la démocratie, comment est-ce que, en fait dans le fond on la questionne aujourd'hui. Beaucoup de films se posent la question de qu'est-ce que c'est que la démocratie, des fois même en passant par le spectre de la dictature, des films sur des dictatures qui disent beaucoup sur également le rapport qu'on a aujourd'hui à la démocratie et puis à l'administration par
exactement,
exemple.
Ouais.
Donc c'est voilà, c'est d'ailleurs complètement intéressant de regarder les films sous cette optique-là, puisque c'est une des grilles de lecture que l'on doit avoir pour ce jury, se poser la question de la citoyenneté, et qui n'est pas quelque chose qui me viendrait comme ça en tête quand j'y pense immédiatement quand je lis un film, mais c'est une grille de lecture intéressante en fait.
Je pense à un film là qui est en compétition, les deux procureurs. On est dans une vieille histoire sous Staline, et en fait quand on regarde ce film, d'ailleurs qui est filmé comme un vieux film russe, on a l'impression que l'histoire est la même encore aujourd'hui.
Mais ça pose la question, vous parliez des migrants tout à l'heure en parlant du film précédent, de la question par exemple de comment est-ce que l'on peut traiter, ou comment est-ce que l'on empoigne la question migratoire, et en fait les états démocratiques ne peuvent y répondre que par des séries de décisions administratives. Et en même temps, l'administration c'est l'émanation même de la démocratie, ou d'une dictature d'ailleurs, c'est là où il y a un point de ressemblance. Et quand on parle, vous parliez du groupe des migrants, comme on utilise ce terme pour définir un nombre de personnes en fait qui viennent d'horizons complètement différents, avec des histoires complètement différentes et des désirs complètement différents. Mais en fait, quand ils arrivent, effectivement, ces gens doivent être ou sont, je ne sais pas s'ils doivent être, mais sont en tout cas réduits à un numéro. Et en fait, il y a une chaîne de commandement très très grande qui fait que c'est très facile de pouvoir renvoyer des gens chez eux, ou de traiter ou de ne pas traiter un dossier, parce que la chaîne de responsabilité est complètement dissolue dans quelque chose de très très grand. On trouve ça dans les dictatures, mais les démocraties le produisent aussi, et ça devrait nous interroger, nous comme démocrates, de se dire mais comment se fait-il en fait qu'on a les mêmes outils. Quand je voyais le film effectivement deux procureurs, je me disais mais c'est complètement adaptable à une démocratie également,
et complètement déshumanisé finalement.
Complètement, ouais, tout à fait.
Aïssa, d'ailleurs, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous avez fait deux documentaires également, un sur qui s'appelle Regard Noir, sur la place des personnes noires à l'image notamment et dans la société
au Brésil, aux États-Unis et en France,
et puis un autre sur la question du climat.
Oui, Marcher sur l'eau, que j'ai tourné au Niger, et qui traite du réchauffement climatique en relation avec le manque d'accès à l'eau potable. Mais dit comme ça, ça ne ressemble pas au film. C'est un film qui est très incarné.
En tout cas, vous avez envie de dire des choses dans votre cinéma.
Oui, en fait, je pense que j'ai été pétrie dans un moule fait d'engagement. Mon père était un journaliste très engagé, qui est mort très tôt, du fait de son engagement. Et puis ensuite, j'ai été récupérée par ma tante, mon oncle, et puis comme on dit, un village. Et il y a dans ce village toujours des figures très très engagées, et ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est un engagement qui a pu être aussi bien, qui est aussi bien politique, associatif, ou artistique.
Lionel, quelques mots sur ce jury. Alors, il est composé, votre président, c'est Lucas Bellevaux.
Lucas Bellevaux, ouais, tout à fait, ouais.
Et puis avec vous,
Lissure Coulin, ouais.
Et réalisatrice.
Une journaliste dont maintenant le nom m'échappe, mais je vais le retrouver.
De RFI.
RFI, ouais, oh là là, j'ai honte.
En tout cas, une belle équipe pour travailler. Vous remettrez votre prix donc samedi en début d'après-midi.
Oui.
Alors, votre présence ici dans cette émission fait sens évidemment pour ce prix, mais aussi avec le point commun avec Aïssa. Aïssa, c'est maman pasteur dans ce film Promis le ciel. Alors vous, c'est fils de pasteur, puisque votre papa était pasteur vaudois. Alors j'imagine très différent du rôle de Marie
les
dans Promis le ciel.
Absolument, ça. Les pasteurs suisses ont cette espèce de rigueur calviniste, même si dans le canton de Vaud, c'est pas vraiment des calvinistes d'ailleurs, c'est pas comme les Genevois. Mais c'est vrai, c'est une pratique de la foi qui est très différente.
Et vous en avez même fait un. C'était votre premier film,
premier
documentaire,
film, tout à fait.
Celui au pasteur, ma vision personnelle des choses. Cette foi et culture protestante, comment aujourd'hui vous rejoint-elle personnellement personnellement
Bah, j'ai été très, c'est drôle parce qu'on m'a proposé encore dernièrement un film qui met en scène quelqu'un qui a la foi. Et je me suis dit, écoutez, moi, les catholiques, j'aurais de la peine à raconter quelque chose dessus parce que c'est quand même très éloigné en fait de ma pratique. La cache parle d'une famille juive. Lointainement dans ma famille, il y a également des juifs et les juifs sont sans doute plus proches des protestants.
Donc, c'est vrai.
Leur pratique de la foi, le rapport qu'ils ont à l'écriture, l'espèce de ligne directe qu'ils ont avec Dieu. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de faire un film d'ailleurs sur plutôt une comédie sur les protestants. Qui sont des gens pas forcément drôles comme ça à premier abord, mais ça me définit très bien. Vous voyez, je suis quelqu'un de très austère. Je dis toujours, moi, me réfugier derrière le fait d'être protestant, pour moi, c'est une sorte de clé pour expliquer pourquoi je ne suis pas festif, pas très drôle, un peu coincé, etc. Et c'est une bonne clé d'entrée. Je dis, je suis protestant, là, je suis pas drôle.
Ça, c'est drôle de pasteur, dire.
Mais c'est l'humour protestant.
Ouais, c'est de l'humour protestant. Mais en fait, par rapport à votre question, pour moi, ça c'était une, bah, comme adolescent, évidemment, je me suis complètement rebellé contre la foi de mon père et de ma mère en me disant que c'était absolument pas ça que je voulais. Et puis, en fait, petit à petit, non seulement j'ai réinvesti quelque chose par rapport à cet héritage, parce que dans le mot protestant, il y a l'idée de protester, de toujours questionner, de ne pas être d'accord et de poser.
De se réformer.
De se réformer tout le temps et de se poser tout le temps des questions, en fait, en espérant ne pas avoir de réponse. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me correspond plutôt. Et puis, en venant habiter en France, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans ma vie, c'est que je suis enfin devenu une minorité, puisque les protestants sont une minorité en France.
Grosse différence avec la Suisse.
C'est vrai, c'est pas anodin, en fait. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans une minorité. Alors en Suisse, j'étais une minorité francophone, puisqu'on est minoritaire, mais c'est pas la même chose. Quand on vit dans sa sphère linguistique, on est malgré tout la majorité. Et puis les protestants, quand j'étais petit, étaient majoritaires en Suisse. Donc toute la bourgeoisie était protestante, les gens qui étaient au pouvoir étaient protestants. Oui. C'est plus le cas maintenant. Mais quand je suis arrivé en France, je me suis libéré de ce poids. Je me suis dit, enfin, je suis dans une minorité, je vais pouvoir comprendre l'humanité, parce que je crois que 90% de l'humanité est une minorité. Si vous êtes gaucher, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas une minorité. Mais
j'allais dire, on est toujours, un peu minoritaire.
Quelque chose, tout à fait.
On parlait du jury du prix de la citoyenneté, un autre jury dont on parle davantage et régulièrement dans Solae. L'année dernière, il fêtait ses 50 ans, avec certaines ressemblances avec le vôtre d'ailleurs, Lionel. C'est le jury écuménique qui est là à Cannes depuis 1974, donc, et qui remettra son prix également samedi à 15h30 au Salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals, avec le prix de la FIPRESTI également, de la critique internationale. Valérie de Marnac, vous parlez cinéma sur le réseau de radio RCF Notre-Dame, et puis à Cannes, vous accompagnez ce jury. Qui est dans ce jury? Quelques mots sur ce jury?
Bon, bah rapidement, c'est un jury international, donc constitué de 6 membres, à la fois protestants, catholiques ou d'autres églises chrétiennes, orthodoxes parfois, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Cette année, on a quelqu'un de République tchèque, d'Allemagne, d'Écosse.
Et très européen cette année.
Très européen cette année, c'est peut-être l'actualité qui veut ça, mais en tout cas, c'est un des thèmes évidemment qui nous porte. Ouais.
Et en résumé, la particularité des critères, peut-être les rappeler?
Alors, très largement, c'est des films qui, par leur qualité artistique, par leur sens des images dont vous parliez, ouvrent effectivement les cœurs, les esprits aux autres, au monde, à soi-même. Peut-être ajouter, y a évidemment, la dimension citoyenne au sens engagement dans la cité, et vraiment incarner nous tient à cœur. Mais il y a aussi une dimension spirituelle qui est importante. C'est vraiment et certains films portent ça, sont des chemins de d'intériorité. Dans les films primés récemment, des films comme Perfect Days de Wim Wenders ou même Une vie cachée de Terrence Malick sont soit des personnages, soit des images un peu plus contemplatives peut-être. Et surtout, le point commun de tout ça, c'est vraiment, et là aussi je vous rejoins Lionel, c'est vraiment des films qui nous mettent en mouvement. C'est pas des films qui apportent des réponses et on cherche pas à délivrer de messages, mais au contraire, des films qui nous touche profondément et qui nous
bouscule même des fois, parce qu'on a eu des films des fois qui étaient qui ne faisaient pas écho directement à l'Évangile, mais qui plutôt le questionnaient, l'interrogeaient,
parfois les jurys font des choix plus iconoclastes.
Ouais, c'est ça.
On a primé dans le passé des films de Pedro Almodovar qui est pas forcément celui qu'on attendait de la part d'un jury chrétien, et comme Tout sur ma mère par exemple.
Promis le ciel ne pourra pas avoir le prix du jury écuménique parce que il est dans la sélection Un certain regard.
C'est uniquement
en fait
les films de un film de la compétition.
On peut être en sélection officielle, mais on ne peut pas prendre.
Ah là là. Ouais.
J'avais fondé tous mes espoirs.
C'est pour ça que vous étiez sympa ce matin. Vous étiez adorable.
Terminé là.
En tout cas, j'espère que Promis le ciel aura un prix, et en tout cas, encore plus qu'un prix, un bel accueil du public quand il va sortir, oui, parce que le film est très très beau. Vous avez une idée déjà de la date de sortie? Automne? Alors, sans doute.
Non, j'ai pas eu de d'information précise. Ça dépend. Si vous le savez vraiment, n'hésitez pas à me communiquer.
Ça dépend souvent justement de la réception et de tout ça. Mmh. En tout cas, j'avais encore une question à vous poser. Ce sera peut-être la dernière, quoique on aura peut-être encore le temps pour une autre. Comment vous positionnez-vous chacun quand vous rentrez dans une salle de cinéma? Alors là, vous enlevez votre casquette de réalisateur, d'actrice, de membre d'un jury ou d'accompagnateur de jury. Quand vous rentrez dans la salle de cinéma, la lumière s'éteint, qu'une autre s'allume pour éclairer l'écran, qu'est-ce que vous attendez, Aïssa?
La surprise. En général, je n'essaye pas d'avoir des lunettes d'actrice, de réalisatrice ou autre. Je veux simplement entrer dans l'univers du film, comprendre quelle est son obsession intrinsèque. Mais si l'une de ces casquettes revient, c'est qu'en général, il y a un problème. C'est que j'ai le temps.
Ouais.
C'est que j'ai l'espace pour regarder le film parce qu'il y a quelque chose qui ne me
colle pas,
mais
n'accroche pas.
Bon, après certaines entre guillemets erreurs dans des films peuvent être aussi très fertiles.
Ouais, des fois.
Je cherche pas du tout la perfection.
Et la surprise des fois arrive plus tard.
Oui,
c'est ça. Il y a un film que j'ai vu là, je dirais pas lequel, mais où sur le coup j'étais un peu circonspect. Et puis il a fallu le digérer et après c'est comme si tout d'un seul coup apparaissait clair. Valérie, vous?
Oui, j'aurais dit aussi pareil, l'étonnement, l'étrangeté, l'inattendu, le nouveau et puis aussi peut-être, moi je suis très sensible quand même à l'image, donc aussi la beauté, la poésie.
Lionel?
J'espère ne pas en sortir comme j'en suis entré. J'espère avoir été changé par le film et peut-être cette chose toujours qui se produit dans toute création artistique, m'extraire du temps. Ne plus être dans un temps qui est le temps de la vie et de la mort, mais d'être dans un autre temps et de la curiosité de me glisser dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai que j'aime voir des films qui parlent de gens qui ne sont pas moi. C'est une addition à ma vie. On n'a qu'une seule vie. Ouais. Par contre, on peut additionner la vie des autres en allant voir des films ou en lisant des livres. Et j'espère additionner une vie supplémentaire en regardant un film. Et puis découvrir quelque chose sur ce qui nous réunit toutes et tous, c'est le cinéma. Découvrir quelque chose sur ce qui fait ma vie, le cinéma. Ouais.
Le temps passe vite à Cannes, très vite, et en plus quand la discussion est fort intéressante, un grand merci à vous trois.
C'est Isabelle Chenu là, auprès d'elle, très bonne journaliste à RFI, c'est Isabelle Chenu. Désolé, je vais dire trois fois son nom, Isabelle Chenu,
c'est réparé. Excusez,
ouais. Qui est donc dans le jury de la citoyenneté. On a hâte de découvrir vos deux prix, et puis belle vie à Promis le ciel, et puis à chacun d'entre vous dans votre carrière, dans votre parcours de vie. Et on est dans une émission protestante, j'ose le dire, que Dieu vous bénisse tous les trois dans tout ce que vous faites.
Amen.
Je vous souhaite vraiment le meilleur. Bon travail en tout cas pendant cette fin de festival. On se quitte avec le titre éponyme du film Aïssa. Alors moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, qu'on a déjà passé dans Solae d'ailleurs. C'est Promis le ciel du groupe Delgrès. Et ce matin je vous propose une version live qui avait été enregistrée sur France Inter. C'était dans Côté Club, en enregistré le 20 février 2024.
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je retrouve les chaînes au pied, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés.
C'était Solae, le rendez-vous protestant en direct du Festival de Cannes sur France Culture, proposé par la Fédération Protestante, présenté par Jean-Luc Gadreau et avec l'excellent Frédéric Quérou à la prise de son, que je remercie. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Culture à 8h30 pour un Solae plus habituel. On y parlera d'Emouna, l'amphi des religions à Sciences Po. Et puis à suivre après les infos talmudiques présentées par Marc-Alain Waknin. Je vous souhaite un très très bon dimanche à chacune et chacun, à Aïssa, à Lionel, à Valérie, et avec ici à Cannes naturellement encore beaucoup beaucoup de cinéma.